les podcasts de Radio Vatican.
Au Nigeria, le flou demeure sur l'état de santé de Muhammadu Buhari. Début mars, le président est rentré d'un séjour médical de 8 semaines à Londres, sans que l'on sache de quoi il souffrait. Depuis, c'est le silence radio, ou presque. Pour la troisième fois consécutive, Muhammadu Buhari, 74 ans, n'a pas assisté mercredi 3 mai 2017 au Conseil des ministres, laissant son vice-président prendre le relais. Alors, son porte-parole a beau assurer que Muhammadu Buhari travaille depuis la maison, la population s'interroge. Mardi 2 mai, des membres de la société civile l'ont appelé à se mettre en retrait du pouvoir. Tous se souviennent des mois d'incertitude politique qui avaient provoqué la mort de l'ancien président Umaru Yar'Adua en 2010, après qu'il ait caché ses propres problèmes médicaux. Marc-Antoine Pérouse de Montelot, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, revient sur cette culture du secret et ses conséquences.
Finalement, cette culture du secret, elle est encore bien développée dans la classe dirigeante, même en régime civil, même en régime parlementaire. Quoi qu'il en soit par ailleurs de la presse qui essaye effectivement d'investiguer sur ces questions, mais qui d'ailleurs a un peu perdu de sa combativité sur sa capacité à mener des enquêtes de longue durée sur les performances du gouvernement. Mais ça tient d'ailleurs à mon avis à autre chose. L'économie politique des journaux est tellement mauvaise qu'ils n'ont plus les moyens de financer des enquêtes comme ils ont pu le faire autrefois du temps des dictatures militaires. Donc vous voyez, il n'y a même plus non plus derrière une combativité forte de la part des citoyens pour en savoir plus. Et il est vrai qu'il y a aussi une certaine réserve, y compris de l'opposition, pour respecter l'intimité du président à ce sujet.
Tout repose donc sur la volonté du président. Quelles sont les options qui s'offrent à lui ?
Il y a déjà une procédure qui est prévue dans la Constitution de 1999 qui dit qu'en cas d'empêchement, d'incapacité, c'est le vice-président qui prend la suite. Donc en l'occurrence, Yemi Osinbajo, qui lui est un chrétien du Sud, et qui en fait concrètement, semble-t-il, dirige déjà le pays en l'absence de facto de son président. Donc là, la procédure est assez claire de ce point de vue. Ce qui l'est moins, c'est quand le président ne lâche pas officiellement le pouvoir, ne déclare rien à propos de son état de santé et de sa capacité à gouverner le pays. Et à ce moment-là, qui a la signature ? Du temps du Yar'Adua, il y a eu des gros problèmes pour, par exemple, nommer des juges à la Cour suprême. On avait à l'époque inventé la doctrine de nécessité qui consistait en fait à confier au ministre de la Justice cette signature. Et là, effectivement, on sortait du carcan constitutionnel.
Si des procédures existent, pourquoi maintenir cette situation de flou finalement ?
Bon, Buhari a un passé de dictateur militaire, ça n'a jamais été un grand communicant. Il y a peu de déclarations publiques de ses porte-parole sur son état de santé. Et du coup, ça devient un enjeu, mais pour justement rappeler que Buhari s'était engagé à être plus transparent, ce qui n'est pas le cas. Il avait également, Buhari, fait des déclarations déclarant qu'il ferait tout pour développer le secteur médical au Nigeria pour que dorénavant les présidents ne se fassent plus soigner à l'étranger. Donc Buhari avait eu des déclarations un peu malheureuses de ce point de vue, puisqu'il a fait l'inverse de ce qu'il avait dit qu'il ferait, en disant que sa priorité serait de développer le secteur médical au Nigérien pour que dorénavant, même les présidents puissent y faire soigner. Or là, la leçon de mauvaise morale qu'on renvoie, c'est qu'effectivement, les riches, eux, ont les moyens d'aller à l'étranger se faire soigner à Londres, pendant que les pauvres, eux, ont une espérance de vie qui reste quand même très très faible, même par rapport aux standards africains au Nigérien, parce que le secteur de la santé est dans un état absolument pitoyable. C'est aussi une forme d'échec, sans parler du cas personnel de Muhammadu Buhari, mais une forme d'échec sur son incapacité à mettre en œuvre les réformes qu'il avait promises, y compris et entre autres dans le secteur de la santé.
Au contraire, il dit avoir réussi contre Boko Haram. Est-ce que l'affaiblissement donc du président Buhari pourrait fragiliser la lutte contre la secte islamiste ?
Il y a toujours un petit peu ce sentiment qu'un président musulman du Nord, qui plus est ancien militaire, serait mieux à même de régler le problème de Boko Haram. Ce qui fait que le vice-président Osinbajo serait peut-être moins bien placé que Buhari. C'est très difficile de se prononcer. Donc le groupe Boko Haram, si vous voulez, a reculé par rapport à la situation de 2014. Il n'est pas techniquement défait. C'est un groupe qui continue de tuer, et pas seulement des civils, c'est important de le rappeler. Hein. Il y a aussi des attaques, des embuscades contre des militaires. Donc le groupe a toujours une capacité de nuisance, certes réduite. Et ce qui a vraiment changé, finalement, c'était pas tant la performance de l'armée nigériane, qui reste très corrompue, qui reste finalement assez mal formée pour ce genre de guerre asymétrique. Ce qui avait vraiment changé après l'élection de 2015, c'était l'espoir qu'avait soulevé l'élection de ce président musulman du Nord. Et l'impression pour les populations du Borno où sévit Boko Haram, qu'effectivement, Pour une fois, à Abuja, à la capitale, on allait enfin se préoccuper de leur sort. Et du coup, il y avait eu un regain de confiance, si vous voulez, dans l'État, qui avait joué en faveur des autorités pour combattre Boko Haram. C'est sûr qu'aujourd'hui, la désillusion est assez forte. Les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs qui étaient nés au moment des élections de 2015, et c'est ça qui joue. Tout va dépendre, à mon avis, vraiment de la capacité des populations du Borno à continuer de se mobiliser contre le groupe, quel que soit le pouvoir en place à Abuja.
Finalement, le sentiment de vacance du pouvoir est aussi dû à l'échec des mesures promises par le président, non ?
Il y a un sentiment vraiment de vacance du pouvoir, de vacance de direction, de vide politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet, si vous voulez. Il y a eu des projets de réforme en 2015. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout est à l'arrêt et que de toute façon, on va terminer les deux dernières années du mandat dans l'attente, avec un vice-président Osin Bajo qui va remplacer au pied levé le président, mais qui officiellement ne démissionnera pas. Donc un sentiment de blocage, si vous voulez, et d'échec qui va être très fort et qui dépasse même les arguties juridiques pour savoir si oui ou non un président peut continuer à gouverner un pays depuis sa maison.
Et c'est-à-dire que d'après ce que je comprends, ce sentiment-là de blocage, il était déjà présent avant la question des ennuis de santé du président.
Alors, il y avait le sentiment qu'effectivement les réformes n'aboutissaient pas, pas tant que les réformes étaient bloquées du fait de la maladie du président ou de son incapacité personnelle, mais plutôt du fait des résistances d'une classe dirigeante extrêmement corrompue qui ne souhaitait effectivement pas mettre en œuvre des réformes qui allaient toucher à ses privilèges, vous voyez. Donc l'interprétation avant la question de la maladie du président, c'est que si le président n'arrivait pas à être performant, c'était plutôt à cause de ses résistances bureaucratiques, de ses résistances d'une classe dirigeante corrompue. Aujourd'hui, le sentiment est différent. Le sentiment, c'est qu'effectivement, le président, de toute façon, est trop malade pour diriger le pays. Donc là, ça personnalise un peu l'échec, si vous voulez. C'est encore plus personnalisé que ça ne l'était avant.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.